et à toutes. C'est une joie pour nous de vous retrouver, toujours, et d'être rassemblés sous le regard du Seigneur. Voilà, je profite du confort. Enfin, oui, on peut dire un confort.
Tu vas le baisser ?
Non, ça va. Merci. Qu'est-ce qu'un interprète ? C'est quelqu'un qui, tout en parlant aux autres, doit écouter celui qui parle dans une langue étrangère. J'ai toujours admiré la prouesse de ceux qui font de la traduction simultanée. Parce qu'il faut être vraiment concentré, restituer, donner aux gens une parole qu'on a d'abord soi-même entendue, parfois très peu de temps avant, dans l'autre langue. C'est un peu la situation d'un pasteur. Un prédicateur, quel qu'il soit. Et je prie que, tout en vous parlant, je puisse encore être à l'écoute. On ne le voit pas, mais par le Saint-Esprit, il veut intervenir. Alors on va ouvrir la Bible, bien sûr, et nous allons d'abord prier. Oui, Seigneur, merci parce que tu t'es manifesté dans le monde, par ta parole, ce monde que tu as aimé. Et ce matin, nous te remercions pour la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, qu'il puisse nous ouvrir les Écritures et présider lui-même à nos réflexions. Amen. On va d'abord lire un texte de le prophète Ésaïe, chapitre 43. Alors, je me perds un petit peu dans... Différentes versions de la Bible n'ont pas le même ordre des livres. Alors voilà, ça y est. Ésaïe 43, je vous lis les versets 16 à 21. C'est une parole d'encouragement. Dieu va faire revenir son peuple. Il va lui reconfier son alliance après l'exil à Babylone. Donc c'est une parole d'encouragement, bien sûr. Ainsi parle le Seigneur votre Dieu, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle le Seigneur, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, là il s'agit de l'armée du Pharaon, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints, comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis les eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Je vous relis le verset 19 dans la version œcuménique de la Bible. Parce qu'ici trouve un mot qui a fait tilt. Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que moi, je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Ne le reconnaîtrez-vous pas ? Ressassez. Ne ruminez pas le passé. Ressasser, Ce verbe vient de l'idée du sas, du tri, quand on trie quelque chose. Trier, retrier. Et puis, par l'usage, au bout de quelques siècles, il a eu une autre signification, celle de justement le regret, la rumination, la répétition, quand le raisonnement se met à tourner en rond, sans issue. Ne ressassez pas les événements du passé, dit Ésaïe, dit le Seigneur à son peuple. C'est une invitation qui est adressée au peuple d'Israël, mais elle peut aussi s'entendre au niveau des individus, à notre niveau à chacun. Ne ressassez pas vos erreurs, vos péchés, votre passé, ne regrettez rien. Je ne dirais pas comme Édith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. L'Évangile nous amène aussi à cette attitude. Et il me semble que la tonalité de ce message nous a été donnée dans la petite prophétie de tout à l'heure. Allez de l'avant. Portez-vous en avant. Ne ressassez pas. Ce verbe ressasser peut aussi s'apparenter à un autre mot, le ressac de la mer. Le ressac de la mer qui emporte tout ce qui est laissé sur le rivage, puis qui ramène tout pour le reprendre à nouveau, continuellement, tout le temps. Le flux et le reflux de la mer, le ressac. Voilà de quoi le Seigneur veut nous délivrer. N'est-ce pas? Pour que nous puissions aller de l'avant. Il faut qu'il y ait une coupure. Il faut que le cycle, casse. Dans toutes les religions du monde, on a une notion cyclique du temps. Et il y a un livre de la Bible qui peut laisser penser cela, c'est l'Ecclésiaste. Le soleil se lève, il se couche, puis il revient le lendemain, puis il se recouche. Les fleuves vont à la mer, le soleil chauffe la mer, ça fait des nuages, il pleut, ça redescend dans les fleuves, et ça recommence tout le temps. C'est un peu désespérant, ce cycle continuel. Mais il y a un petit indice quand même encourageant dans l'Ecclésiaste. Il dit qu'un jour viendra où Dieu jugera. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. C'est-à-dire un jour où Dieu casse, se ressac, ce retour perpétuel du même. Mais dans les religions du monde, on trouve ça partout. L'idée de la réincarnation vient de là. Le karma, c'est le cycle des plusieurs vies. Et c'est sans pitié. Si tu as bien agi, tu montes en grade. Si tu as mal agi, tu te dégrades. Ça, c'est l'hindouisme. Mais c'est aussi vrai dans la religion des Égyptiens, dans celle des Babyloniens, des Grecs, la métempsychose, des âmes errantes. Toutes ces notions-là partent de cette idée fausse d'un temps cyclique. Pour Israël, pour la Bible, pour les prophètes, le temps n'est pas cyclique. Il avance vers un but. La flèche du temps va tout droit. Et c'est ainsi que nous avons la promesse d'un jour où Dieu vient casser ce perpétuel ressac. Les peuples du monde ont sacralisé leur tradition. Le plus souvent, se sont fermés à la nouveauté. L'Évangile ne pénètre pas toujours facilement dans les cœurs. Il suscite le rejet. L'histoire des Actes des Apôtres est remplie d'émeutes, de révoltes, de persécutions, d'emprisonnements. Le message de Jésus est rejeté. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas, nous, en tant qu'êtres humains, être ainsi remis en cause dans les fondements de notre identité. L'Évangile, c'est des temps nouveaux. C'est le cas des contemporains de Jésus qui l'ont fait mourir, parce qu'il avait apporté la révélation d'un règne de Dieu qui bouscule les us et coutumes. Ainsi en est-il également de l'annonce de l'Évangile par les apôtres après la résurrection de Jésus, chez les Juifs comme chez les païens. Aussi l'invitation d'Ésaïe à ne pas ressasser les événements passés, les événements bons ou moins bons, a-t-elle encore toute sa pertinence ? On va lire un deuxième texte qui se trouve dans la Genèse, chapitre 6. Alors ça, c'est facile à trouver, la Genèse. Hein ? Je parlais avec une dame un jour et je lui ai posé une question. « Est-ce que vous connaissez la Bible ? Vous avez lu la Bible ?»« Ah oui, oui, me dit-elle. Oui, oui, j'ai lu. » Je dis « Est-ce que vous connaissez le livre de la Genèse ?»« Oh, je ne suis pas encore rendu là. » Bon. Genèse 6, verset 1er. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. » Toujours vrai, ça. « Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » La version du rabbinat français traduit ainsi, « Mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme, car lui aussi devient chair. » Il y a une espèce de corruption qui touche la création. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros, ces géants, qui furent fameux dans l'Antiquité. Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Le Seigneur dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Je vais ajouter d'autres textes, mais on va lire simplement dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, vous connaissez par cœur ce texte, 2 Corinthiens. Alors, un procédé mnémotechnique pour retrouver facilement l'ordre des épîtres. On m'a enseigné ça au catéchisme. Rococo galéficotes. Vous vous rappellerez ? Rococo galéficotes. Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Thessaloniciens. Voilà, ça m'est resté. Chapitre 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne à la manière des hommes. Et si nous avons connu le Christ à la manière des hommes, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne comptant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il y a beaucoup de choses dans ces textes. Le déluge a détruit une humanité devenue hybride. Vous savez, comme les voitures. Hybride, c'est un mot emprunté au latin hybrida, bâtard, de s'en mêler. Mais il est aussi à rapprocher d'un mot grec, hubris ou hybris, qui signifie ce qui est en excès. En excès. Et effectivement, on a dans ce texte de la Genèse la présentation d'un excès de violence. Au verset 4, on a les géants, c'est des êtres excessifs. Ce terme traduit l'hébreu, néphilim, ce mot veut dire les tombés. Les géants sont des tombés. Le monde était gangrené par le mal, en voie de pourrissement, de dégénérescence, et au point que Dieu regrette. Il fallait quand même oser pour le rédacteur biblique de dire que Dieu se repent, Dieu regrette, il va tout casser et recommencer. Israël a eu le même sort. Un prophète Jérémie dira, enfin Dieu lui dira, descends dans la maison du potier et regarde-le travailler. Il y va, et le potier faisait un vase qui n'a pas marché, il y a une paille, il y a quelque chose. Alors il casse tout, il en refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Il a fait pareil avec l'humanité à partir de Noé. Il y a un nouveau monde qui prend son départ avec Noé. Noé est un second Adam, un nouvel Adam en quelque sorte, un recommencement. Mais voilà, après Noé, les choses ont recommencé d'aller de travers. Nous le savons tous. Depuis Noé, l'histoire du monde n'est que plaies et bosses, sang et larmes, guerre et conflit. C'est désespérant ? Non, malgré tout. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que l'événement destructeur du déluge n'a pas suffi pour détruire la racine spirituelle du mal. Après Noé, tout a recommencé. Et il a fallu un événement beaucoup plus puissant que le déluge pour que le jugement atteigne le mystère du mal dans ses profondeurs les plus abyssales. Le mystère du mal. Une petite parabole de Jésus. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Pendant la nuit, son ennemi vient pour semer de l'ivraie. Les disciples s'étonnent. Comment ça se fait ? Jésus, pour toute explication, leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Ah, oh, ben on va sévir. Hein. On va... Et sauver le camp du bien et détruire le camp du mal, comme disait George Bush. Puis Jésus dit non, enfin dans la parabole, le maître dit non, laissez-les croître ensemble. C'est tout à la fin que les anges de Dieu feront le tri, n'est-ce pas ? Cette petite parabole est comme un raccourci de l'histoire du monde. Je ne vais pas m'attarder sur cette parabole parce qu'on va se perdre dedans. Donc il a fallu un événement beaucoup plus puissant pour détruire l'ivraie, la zizanie, détruire le mal dans ses profondeurs. Il faudra que Dieu lui-même, dans son Fils unique, intervienne. Dieu s'engage lui-même dans ce combat. La Bible entière, de la Genèse à l'Apocalypse, est le récit de ce travail de Dieu. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent. Oui, Dieu travaille au sein de la création. Il travaille au sein de l'aventure spirituelle de l'humanité, tout spécialement d'Israël, par son alliance, son culte, sa loi et des prophètes. Dieu travaille la pâte humaine dans un laboratoire qui s'appelle Israël et qui met en évidence la virulence du mal, le virus. Mais aussi, à l'égard des autres nations, Dieu patiente. Mais il agira au moment de l'accomplissement des temps, à la venue de Jésus, et précisément jusqu'à la victoire sur le mal remporté par Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, il y eut des ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures. C'est le signe de ce combat qui nous dépasse. C'est le signe de cet engagement de Dieu contre la racine la plus profonde du mal. Dieu lui-même, à travers son Fils, se donne par amour. Voici en effet l'événement plus puissant que le déluge. Ce que le déluge n'a pas pu faire, pourtant c'était déjà extraordinaire, eh bien, la mort de Jésus sur la croix l'a fait. Dieu lui-même l'a fait à travers son Fils. Dieu lui-même se donne à travers Jésus dans la mort pour y engloutir le mal, le péché, la malédiction de la loi, la domination des puissances de l'univers, toutes nos dépendances, tous nos esclavages, tout a été englouti par le fond, totalement et à jamais, par la mort de Jésus. Mais ce n'est pas le dernier mot de Dieu, justement. Dieu a ramené d'entre les morts Jésus, le grand berger des brebis. Jésus, la mort a dû relâcher Jésus. Dieu a contraint la mort à relâcher Jésus. Et il est revenu d'entre les morts, pur, sans péché, glorieux, saint. Tel est le Seigneur que nous aimons, que nous servons et que nous adorons. Jésus, Christ, ressuscité d'entre les morts. Il a laissé derrière lui nos maladies, nos souffrances, nos péchés, nos misères. Lorsque Jésus meurt, Dieu est impliqué, engagé en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Paul écrit dans le chapitre 6 des Romains, « Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu, par son amour insondable, a reçu dans son Fils ce salaire du péché, par amour pour nous. » Oui, l'amour est la seule clé de compréhension de ce mystère insondable, l'amour. Mais la mort n'a pas pu garder Jésus, elle a dû le rendre. Il est ressuscité, pur, saint. Il est la nouvelle création. Le véritable nouvel Adam, c'est lui. Ce n'est pas Noé. Au-delà de Noé, je vous l'ai dit, les choses ont de nouveau mal tourné. Un théologien parlait des humains comme étant taillés dans du bois courbe. Nous sommes tous un peu tordus. Mais là, celui qui a été retiré du tombeau est le nouvel Adam. Et il y a un petit mot sur lequel j'ai un peu pesé, c'est « maintenant ». Maintenant, il y a eu une cassure. La croix a cassé l'histoire en deux. On ne ressassera plus les choses du passé. C'est pourquoi la foi en Jésus s'atteste par un signe qui s'appelle le baptême. On ne peut pas rester croyant à part soi, en secret, dans ma vie privée, sans le regard des autres. Et si c'était possible sans le regard de Dieu, eh bien non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi la foi doit s'attester par le baptême. Et l'apôtre Pierre en parle au chapitre 3, verset 21. L'eau du baptême renvoie au déluge, ombre et image de ce qui devait advenir en Jésus-Christ avec infiniment plus de puissance efficace, le baptême. De sorte que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un et quelqu'une, maintenant il faut décliner les choses, a mis sa confiance en lui, il est fait, elle est faite, nouvelle création, dans la compagnie de Jésus. Dans la compagnie de Jésus. Le mot compagnie renvoie au pain partagé, n'est-ce pas ? Nous sommes ses commensaux. Et la scène est aussi là comme un signe pour nous le rappeler. La table est la table du Seigneur et pas de l'Église. Et nous sommes privilégiés de pouvoir, dimanche après dimanche, faire mémoire de cela. Une question. Tout a-t-il vraiment changé, à votre avis ? Tout a-t-il vraiment changé ? Alors, je dis oui. Oui, si nous parlons du regard que Dieu porte sur nous tous au travers de Jésus. Dieu nous voit nouvelle création. Acceptons ce verdict. Réjouissons-nous. Dieu nous voit nouvelle création. Des ressuscités. Des gens qui sont passés par la mort et la résurrection. Ils l'ont montré dans leur baptême. Ils le montrent encore dans le repas du Seigneur. Oui, tout a vraiment changé au regard de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas ressasser les choses anciennes. Il faut aller de l'avant. Comme si ces choses anciennes avaient conservé une part de vérité. Là est notre difficulté. Les choses anciennes n'ont plus de vérité. Ce sont des réalités, certes. Des blessures qui peuvent encore nous faire mal. Mais ce n'est plus la vérité. Ce sont des réalités seulement. Nous mélangeons parfois ces deux termes, qui est réel et vrai. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Ceci appelle désormais un autre regard sur toute chose, un autre regard sur nos valeurs. Vous savez, Paul, il en parle de ce regard différent. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et il en témoigne quand il dit « J'étais fier, moi, hébreu, né d'hébreu, pur sucre, pharisien, zélé, irréprochable, au point de persécuter l'Église. J'étais fier de la circoncision, de mon appartenance à Israël, de la tribu de Benjamin. Mais toutes ces choses qui étaient des valeurs, je les ai considérées comme de la crotte. C'est le mot qu'il utilise. Oubliez ces choses anciennes pour saisir et garder la foi dans le Christ, la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. À cause de lui, j'ai tout perdu. Il ne va pas ressasser les choses anciennes, Paul. Et il ne va cesser de célébrer la nouveauté apportée par Jésus, la nouvelle création. Oui, tout a vraiment changé. Un autre regard doit être porté sur nos sagesses, notre monde, nos structures sociales, nos techniques, nos richesses, bref, tout ce qui fait nos fiertés et nos identités. Oubliant ce qui est en arrière, dit Paul, je cours vers le but. Je cours vers le but, je ne suis plus enfermé dans le cycle de la malédiction de la loi, retombant toujours dans les mêmes culpabilités. La croix a brisé l'enfermement cyclique de nos histoires et inaugure un chemin nouveau. Avez-vous remarqué l'insistance du Nouveau Testament, des évangiles, sur cette nouveauté ? Cet aspect inaugural, il est né d'une vierge qui n'avait pas connu d'homme. il est entré dans Jérusalem sur un ânon sur lequel personne n'était jamais monté. Et on l'a mis dans un tombeau neuf. Quand même étonnant, ça. Cette insistance sur le caractère inaugural de la vie humaine, de l'expérience humaine de Jésus. C'est pourquoi nous l'aimons. Nous le suivons dans un chemin totalement nouveau. Jésus, c'est l'anti-fatalité. Jean chapitre 9, les disciples et Jésus voient un aveugle de naissance. Eux, ils font l'archéologie. Ils regardent vers le passé. Qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Et Jésus coupe court à ce rétropédalage en disant ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Et il tourne les choses vers l'avenir, en avant. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça, c'est fort. Et ainsi de suite, chaque fois que Jésus intervient dans la vie des gens, tout a-t-il vraiment changé ? Alors nous avons parfois du mal à le croire, n'est-ce pas ? Nous en doutons parfois. Si nous regardons à nous-mêmes, à nos échecs, nos chutes et nos rechutes, nos imperfections, l'imperfection des communautés chrétiennes, où est l'Église parfaite ? Tout a-t-il vraiment changé ? Nous aurions tendance à répondre, ben non, c'est toujours pareil. Et nous avons tort. Dieu nous donne tort. Tout a-t-il vraiment changé ? C'est vrai qu'il nous reste du chemin à faire, à aller de progrès en progrès. J'ai l'habitude de dire que la vie chrétienne est un chantier, comme la maison de Pascal. D'une belle image de la vie chrétienne. Un chantier, il y a encore du boulot, hein ? Mais c'est vrai pour chacun de nous, il y a encore du boulot dans ce chantier-là. Vous ne trouvez pas ? Mais comment allons-nous progresser si nous sommes hypnotisés, captés par la pesanteur, les pesanteurs, les lenteurs de nos existences humaines ? Alors, ne ressassez pas. Portez les regards en avant. Oui, c'est précisément parce que tout a été changé que les réalités présentes, aussi affligeantes qu'elles puissent nous apparaître, peuvent évoluer. Nos réalités peuvent évoluer vers la vérité, vers Jésus. Il est la vérité. Il est l'homme nouveau, véritable. Si nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection, le Saint-Esprit que Jésus répand dans nos cœurs nous vient en aide. Il nous accompagne. Il maintient en nous l'espérance, la foi, l'amour divin. C'est ce qu'enseigne Jésus au chapitre 16 de Jean. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » C'était trop lourd, trop violent. « Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans des réalités, mais dans la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. On retrouve là un petit peu la question de l'interprète qui s'adresse aux autres tout en étant à l'écoute. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit C'est l'antidogmatisme. J'ai vécu personnellement cela. À l'époque où j'étais tout jeune, on demandait au Seigneur le baptême du Saint-Esprit. Alors autour de nous, les dogmes fleurissaient. C'est plus pour nous, c'était pour le temps des apôtres. Et puis c'est risqué, vous savez, le malin, il est malin. Hein, il peut vous faire tomber dans des excès de psychisme. La psyché humaine, ce n'est pas la même chose que le Saint-Esprit, du tout. Mais nous avons persévéré et le Seigneur nous a exaucés. Mais il a fallu sasser, trier. Il ne faut pas ressasser le passé, mais il faut avoir du discernement. Il a fallu persévérer, mais le Seigneur nous bénit. Il bénit les persévérants. Il bénit les têtus, comme les ânes. Il les bénit quand ceux-ci s'entêtent à contempler Jésus, à confesser sa parole, à proclamer l'Évangile. Le Saint-Esprit, c'est l'antidogmatisme. Paul écrit, nous ne connaissons plus personne de manière humaine. Et même si nous avons eu l'occasion de voir Jésus en chair et en os, avoir mangé avec lui, vu ses miracles, tout ceci reste très humain. C'est pour ça que je ne suis pas un fan des films sur Jésus. Parce qu'il y a forcément quelque part une trahison. Ça ne fait pas appel aux bonnes cordes. Seul le Saint-Esprit peut nous révéler vraiment Jésus. Nous enseigner Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Paul écrit, nous ne connaissons plus personne, ni le Christ même, de manière humaine. Maintenant, voilà ce maintenant si important. Voilà la cassure du cycle des pensées humaines. La brèche que Dieu opère, maintenant, après la mort et la résurrection de Jésus, maintenant, après la venue du Saint-Esprit Consolateur, nous connaissons Jésus d'une autre manière. Nous connaissons par le Saint-Esprit Jésus-Christ, et pour parler comme Calvin, le réformateur, il besogne en nous. J'aime bien ce mot. Le Saint-Esprit besogne en nous, pour nous donner une vision spirituelle de toutes choses. Le Saint-Esprit n'est pas soluble dans les pensées humaines. Il n'y a rien de commun. Un certain Simon en a fait une douloureuse expérience dans le livre des Actes. Simon, le magicien, qui s'était converti à la prédication des apôtres. Finalement, il imagine pouvoir acheter contre argent des apôtres, le pouvoir de donner le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Non, c'est incroyable cette histoire. Et Pierre, vous connaissez la réaction de Pierre, hein, que ton argent périsse avec toi, tu n'as que des pensées humaines, prie le Seigneur de te pardonner si c'est possible. Oh, oulala, quelle secouée. Comme on dit en Suisse, il a pris une secouée. Ça montre bien que les pensées charnelles, humaines, n'ont pas leur place dans l'œuvre du Saint-Esprit. Et pour terminer, Paul le dit, il écrit ça de 1 Corinthiens 2. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, l'homme psychique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. André Chouraqui traduit « L'investigation se fait selon l'esprit ». L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il investigue tout. C'est pas, il y a ce regard pénétrant du Saint-Esprit. Et il n'est lui-même jugé, investigué par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Ésaïe 40, que Paul cite. Or nous, nous avons la pensée du Christ. Et je pense que c'est une vigilance continuelle à avoir, un discernement. Nous avons besoin de ce discernement continuellement pour sasser, trier ce qui est de la psyché humaine et ce qui vient du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alors je dis, Seigneur, oui, viens-nous donner par le Saint-Esprit ce discernement. Jésus l'a dit d'une manière poétique. Les brebis ne connaissent pas la voix des faux bergers. Elles connaissent la voix du vrai berger. Elles le suivent. Elles fuiront les étrangers. Et cette parabole si belle intervient juste après, justement, la guérison de l'aveugle de naissance confronté à l'endurcissement des chefs religieux qui voulaient l'amener à dire « Non, non, Jésus vient pas de Dieu ». Il observe pas le sabbat, voilà, les us et coutumes. Il bouscule tout ça, ça va pas. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Si c'est un pécheur, j'en sais rien. Mais je sais une chose, j'étais aveugle et il m'a ouvert les yeux. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il pourrait rien faire. Puis après, il ressort le catéchisme des pharisiens et leur dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et là, non plus d'autre argument. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent, cassé. La cassure, elle est là. Jésus le rencontre plus tard dans le temple. Crois-tu au Fils de Dieu ? Bah, qui sait ? Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Eh bien, je le suis, moi qui te parle. Tu l'as vu, c'est lui. Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui, n'est-ce pas ? Mais qu'il est douloureux le combat des églises, des chrétiens fidèles, de l'Église fidèle à Jésus-Christ, confrontée aux philosophies du monde, à la religiosité monde, c'est un combat qui durera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen.